RMC. Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Et on repart sur la lutte de pouvoir dans les couples avec Jean-Michel Hougourian qui est avec nous, neuropsychiatre. Ensuite, Laurent Carilla vous donnera quelques clés pour mieux se faire plaisir. En love conseil, je vous proposerai quelques surprises assez simples mais efficaces pour justement surprendre votre partenaire. Et notre fil d'Ariane nous fera un florilège des addictions les plus insolites. Voilà notre programme pour la deuxième heure. Et j'oublie bien sûr Fabrice qui a testé pour nous un flashlight. Mais tout de suite, on va ouvrir la boîte à questions avec vous, justement Jean-Michel Hougourian. Le Wikisex du jour, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas un dominant et un dominé au sein du couple?
C'est déjà extrêmement compliqué qu'il n'y ait pas de dominant et de dominé, parce que c'est un peu la loi de la nature. On aperçoit ça même déjà chez les animaux. Il y a toujours un mâle dominant ou une femelle dominante et les autres sont dominés. Ça demande beaucoup de travail, je dirais. Ça demande beaucoup de travail. Et au fond, on peut se demander si, comme dans le cas dont nous parlions tout à l'heure, le fait de se mettre dans la position de dominer n'est pas assez confortable pour certains.
En tout cas, il y a des enquêtes qui ont été faites auprès d'animaux, hein, sur ceux qui vivaient, qui avaient le meilleur système immunitaire entre les dominés, les dominants, et puis ceux qui s'adaptent en fonction de la situation.
C'est ça.
Et c'est ceux qui s'adaptent en fonction de la situation qui finalement s'en sortent le mieux. Les dominants, ils sont toujours en alerte, du coup, ils sont particulièrement
stressés,
fatigués. Et les dominés, bah, ils perdent aussi beaucoup de leur système immunitaire. Donc la solution, c'est peut-être justement de s'adapter en fonction des circonstances. C'est peut-être le conseil qu'on peut donner à ceux qui
De ne pas se trouver coincé dans une situation soit de dominant, soit de dominé, et de tenir cette situation, cette position, en quelque sorte, quoi qu'il arrive, mais de se laisser, de s'adapter aux événements et d'être alternativement ou successivement, soit dominant, soit dominé, compte tenu des circonstances.
En tout cas, ces réponses, vous les retrouvez sur le Wikisex sur rmc.fr. On donne la parole à Cyril qui est avec nous maintenant. Bonjour Cyril.
Oui, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Bonjour,
bonjour.
Brigitte. Moi je voulais parler de ma propre expérience.
Mais bien sûr,
j'ai rencontré la mère de mon fils à 18 ans. Mm-hmm. On a eu beaucoup de rapports de force.
Vous avez 24 ans hein, aujourd'hui, je précise que vous êtes très jeune.
J'ai 27 ans et elle en a 25 aujourd'hui. Et on a eu beaucoup de rapports de force dans notre couple.
À vos âges, c'est un peu normal, hein, Cyril.
Quand on est jeune,
on est un petit peu comme ça. Hein.
Absolument, oui, mais effectivement.
Bien sûr. Mais en fait, c'est que moi, c'était un peu démesuré dans le sens où je me sentais quelquefois trop supérieur vis-à-vis de elle parce que je travaillais, je gérais la maison, je gérais un peu tout le quotidien. Et de son côté, elle était plus casanière, famille, cocon. Alors que on n'a pas eu le même vécu. Donc, automatiquement, pas les mêmes expériences et pas les mêmes façons de voir les choses. Mm-hmm. Et ça a clashé, quoi. Je veux dire, ça a tenu quelques années et on a eu un enfant ensemble. Mais ça n'a pas forcément apaisé les choses.
Non, parce que souvent, quand les femmes deviennent mères, ça leur donne du pouvoir.
Ça leur donne du pouvoir et puis surtout, ça leur donne un otage qu'elles peuvent utiliser.
Oui, en fait, on va dire que ça faisait 5 ans.
Tais-toi, tu vas réveiller l'enfant, tu vas réveiller le gosse.
Oui, après, c'est sûr qu'on peut s'en servir pour pas mal d'arguments, quoi. Mais c'est vrai que, moi, j'étais pas pour, à la base, avoir un enfant de suite, parce que j'idéalisais vachement les choses, avoir une bonne situation, avoir une maison, tout ça, pour pouvoir accueillir son enfant dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, je vais me lancer. Mais ça, notre couple n'a pas tenu parce que après, on se laissait aller, on n'avait plus d'attention ni envers l'un ni envers l'autre, et ça a cassé. Et ce qu'il y a en fait, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 9 mois qu'on est plus ensemble, mais on commence à l'heure d'aujourd'hui à se retrouver, à retrouver de la complicité, tout ça, et il n'y a plus ce rapport de force. Donc on a réussi à s'apaiser, et peut-être que cette séparation, au final, il y a peut-être...
Vous allez peut-être vous retrouver, vous voulez dire. Mais c'est possible, Cyril, parce que qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où une femme se retrouve dans une position de dominer, ce qui a été son cas, elle n'avait pas trop le choix, elle a été obligée de se soumettre, et ça, les femmes...
Ça lui dérangeait pas, ça ne dérangeait pas.
En apparence... Laissez-moi finir, hein. Merci Cyril. En apparence, mais à partir du moment où la femme commence à grandir, si je puis dire, hein, parce qu'entre 18 ans et 25 ans, il se passe beaucoup de choses. En plus, elle est devenue mère. Et à un moment donné, elle peut plus vous remettre au pas parce que vous avez pris tellement l'habitude d'être dominant que de toute façon, vous n'entendez pas les messages qu'elle vous envoie. Donc sa seule solution, c'est en effet de mettre un terme au couple pour avoir un petit peu d'espace où elle peut s'affirmer. Et c'est ça qu'il faut que les hommes comprennent. Pour éviter justement ce clash qui fait toujours du tort et du mal, et parce que c'est toujours plus compliqué de se retrouver en couple après une séparation que d'arriver à dépasser des crises. Hein.
Bien sûr.
Et donc c'est ça que vous devez comprendre, c'est que quelque part, si vous voulez la récupérer, il va falloir lui laisser son espace.
En d'autres termes, vous savez, c'est une leçon qui s'applique, ça c'est ma grande idée depuis toujours, ça s'applique non seulement aux couples, non seulement aux familles, non seulement aux peuples, mais même aux États. Il ne faut pas abuser de la position dominante que l'on a. En d'autres termes, il ne faut pas pousser le dominé à la rébellion. Il faut éventuellement le dominer peut-être dans certains domaines, mais ne jamais le pousser à bout à la rébellion et surtout ne pas l'humilier. Parce qu'au bout d'un certain temps d'être dominé, on se sent humilié. Quand on se sent humilié, on devient rebelle.
C'est complètement ça. C'est ce qu'elle a ressenti.
C'est ce qu'elle a ressenti, voilà.
Et c'est vrai que moi, lors d'aujourd'hui, peut-être j'étais un peu aveugle par tout ça, parce que j'ai eu un vécu qui a fait que j'ai dû m'en sortir seul. Et quand j'ai commencé à m'en sortir, j'ai peut-être un peu, pardonnez-moi l'expression, pété plus haut que mon cul. Bon, c'est possible, hein. Mais après, c'est vrai que lors d'aujourd'hui, on a une façon de voir les choses différentes. On a quand même un enfant en commun, qui a pas encore 2 ans. Et on essaie de voir les choses différemment, les erreurs qu'on a fait, ne plus les refaire, et peut-être, éventuellement, reconstruire quelque chose. Mais voilà, moi je suis... On n'est pas dans l'attente, mais c'est vrai qu'on a trouvé quand même
Vous comprenez ce qui s'est joué, vous arriverez à trouver le juste milieu. Parce que le danger, parfois, c'est comme vous voulez la récupérer, du coup, vous allez, baisser la culotte et lui laisser trop de pouvoir.
C'est ça qui me fait peur, c'est que je ne sais plus trop dans quelle position en fait me mettre, parce que je me dis, j'ai plus envie de forcément trop la contrarier, mais après, en même temps, je reste quand même un homme, et j'ai envie de gérer ma famille.
Mais il faut que vous trouviez justement le juste équilibre, et je crois que Jean-Michel Hougourlian l'a très bien expliqué tout à l'heure. Le juste équilibre, c'est être dominant dans certains points, sur certains points, et laisser l'autre dominer dans d'autres. Sinon vous risquez en effet de vous mettre dans une position de chien battu, comme dans la chanson de Jacques Brel, pour la récupérer, et puis après c'est elle qui va prendre le pouvoir. En plus, elle va se venger parce qu'elle a souffert, enfin voyez, et là on renverse le pouvoir, et c'est pas
et
bon
là, et là on revient au jeu de bascule dont nous parlions en début d'émission, où on ne peut plus monter sans faire descendre l'autre, et alors là c'est dramatique, vous comprenez, il faut sortir de ce jeu là
Et justement, après, je pense qu'on a pris quand même de la maturité, ça nous a mis une bonne petite claque, et c'est alors d'aujourd'hui, on retrouve cette complicité, c'est qu'on en a envie chacun de notre côté, et qu'on fait quand même la part des choses, on a un enfant, donc on essaye d'avancer comme ça. Donc je me suis dit que cette rupture a été compliquée, comme toutes les séparations, mais au final, très bénéfique.
La vie est la meilleure leçon, hein, Cyril.
Oui.
Merci en tout cas. Merci de votre témoignage.
Je vous remercie. Merci beaucoup.
Au revoir. C'est Pierre maintenant qui est avec nous. Pierre, vous n'avez pas tout à fait le même âge que Cyril. Vous avez 70 ans. Bonjour.
Bonjour Brigitte. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Bonjour cher confrère, je devrais dire.
Vous êtes psychiatre, Pierre?
Non, mais je suis médecin.
Médecin.
Ah, d'accord. Très bien.
Depuis 2 mois. Bon, ce problème m'intéresse énormément parce que moi je le vis à fond en ce moment.
Oui.
J'ai eu 2 unions dans ma vie qui ont duré plus de 25 ans chacune, et la dernière est en train de se déliter sous forme d'un divorce mal géré, mal construit, et qui dure depuis des années parce qu'il y a cette opposition, cette rivalité des intelligences de certaines personnes. Mon dernier conjoint est psychologue clinicienne. Et évidemment, est arrivé un moment où j'ai pas vu arriver, moi, la guerre. La guerre s'est située au niveau du plan intellectuel sur les connaissances en la matière. Entre autres, en psychiatrie, en psychologie clinique, etc. Parce que moi, médecin, j'avais quelques notions. Et bien sûr, elle avait des notions supérieures aux miennes qu'elle a voulu m'afficher, etc. Parce que longtemps, elle a été en retrait, tandis que moi, j'exerçais, elle n'exerçait pas. Et automatiquement, ça a créé vraiment une guerre intellectuelle.
Moi, je me permets de dire, Pierre, que de toute façon, tout psy qui commence à montrer qu'il est plus intelligent et plus supérieur dans ses connaissances, c'est un mauvais psy. Hein.
Absolument.
Oui, bien sûr.
Merci Jean-Michel.
Surtout quand on veut classer les autres comme mauvais objet d'investissement libidinal, c'est la plus belle insulte qu'on m'ait jamais faite.
Ah oui, c'est pas
alors là, c'est une insulte sophistiquée, ça, mauvais objet d'investissement libidinal.
Ben,
oui.
Aussi, c'est normal.
Oui.
Ben non, ça montre que la pauvre, elle a appris dans les livres, mais elle a pas appris dans la vie.
Enfin, le gros problème, l'autre problème que je voudrais dire, j'écoutais depuis votre émission depuis le début cet après-midi, là, il y avait un jeune couple qui disait que tout allait bien, etc., il gérait bien, etc., avec son enfant qui avait 2 ans, etc., et tout se passait très bien. Il n'y a pas de guerre à cet âge-là. Moi, j'en ai élevé 8, hein, 5 avec la première et 3 avec la dernière. Et je pense que le gros des conflits est apparu, des conflits de préséance, d'autorité de chacun des parents, est apparu au moment de la préadolescence ou de l'adolescence. Parce que c'est là que ça se situe effectivement, là où il y a des partis pris. Et souvent, on dit toujours que les filles se tournent plutôt vers leur père parce que le père est plus attaché aux filles, que les filles se tournent éventuellement vers leur mère parce qu'ils ont la protection de leur mère. Et ça crée aussi des petits différends qui sont quelquefois durs à résoudre.
Oui, mais enfin, vous savez, en même temps, Pierre, il n'y a pas de règle universelle non plus.
Non, il n'y a pas de règle.
Cela dit, c'est vrai qu'à 13-14 ans, les enfants commencent à être plus manipulateurs et plus habiles à manipuler les dissensions entre leurs parents qu'à l'âge de 2 ans. C'est vrai.
Ouais. Et à l'âge des sorties, comme on dit, des sorties avec les copains, etc., c'est là que ça devient critique. Là. J'avoue que on a souvent eu des différends pour les premiers comme pour les derniers sur le fait qu'il fallait permettre ou pas la sortie, enfin, etc. J'avoue que c'est là que j'ai vu apparaître ou réapparaître des conflits d'autorité, quoi, donc de qui porte la culotte, qui décide pour l'enfant.
Moi, le conseil que je vous donnerais, Pierre, en l'occurrence, puisque visiblement vous êtes dans une situation très conflictuelle, c'est de jouer à l'abruti face à ces réflexions hautement psychologiques. Et plus vous allez jouer à l'abruti en disant je comprends pas ce que tu veux dire, plus vous allez la mettre devant son incapacité à vous nuire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que au fond, quand elle vous traite de mauvais objets libidinal, ça veut rien dire. Au fond, si on réfléchit bien,
ça veut dire je t'aime pas, c'est tout.
Oui, enfin, je veux dire quand on communique dans un couple, on n'utilise pas ces expressions-là. Donc elle se sert d'armes qu'elle ne maîtrise d'ailleurs même pas très bien. Donc plus vous allez ne pas voir les armes qu'elle utilise, plus vous allez la déstabiliser. Au fond, moi ce serait la technique que je vous conseillerais.
Oui. Moi je pense
ça,
que
c'est déjà fait, et j'en suis au point que moi j'ai abandonné très tôt et j'ai quitté l'environnement de façon à ne plus être toxique, comme disent les psy aussi, hein, pour le couple et pour l'ensemble de la famille, et que maintenant le transfert de la rivalité c'est fait maintenant sur le plan des intérêts. J'allais dire pécuniaire, des intérêts
financiers, oui, bien sûr.
Financiers, en particulier de répartition du patrimoine, où elle a eu la chance. Ici, nous avons des juges un peu qui manient un peu la justice d'une façon bizarre, et elle a la chance d'avoir l'appui des juges qui tendraient à lui donner la totalité de notre patrimoine immobilier qui est complexe, sous prétexte qu'elle s'est arrêtée de travailler pendant 7 ans pour élever les enfants. Alors moi, je me base sur un autre plan maintenant. J'ai abandonné le plan de la discussion intellectuelle sur les mots utilisés. Ça, c'est fini depuis longtemps. Moi, maintenant, j'avoue que j'ai affaire à quelqu'un qui est vindicatif et qui est cupide aussi, je crois, ou vénal, je ne sais pas comment.
Elle vous le fait payer comme ça maintenant.
Oui,
Oui, enfin, en même temps, je ne vois pas comment un juge pourrait complètement vous déposséder. Ça me paraît.
Je crois que ça se finira de toute façon en appel ou en cassation, parce que ça a l'air d'être bien parti comme ça.
Oui. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un bon avocat et qui surtout peut-être. Dans ces cas-là, moi, ce que je conseille parfois, c'est de prendre un avocat femme assez virulente.
J'ai eu votre idée. Dès le début, j'ai pris une femme, puis j'en ai changé, puis j'en ai pris une autre, puis j'en suis à une troisième, et j'ai pas obtenu ce que je voulais. C'est-à-dire qu'elles ne prennent pas mon point d'appui pour défendre ce dossier de liquidation, et ça me perturbe, enfin ça me chagrine, ça me déprime par moments, c'est le cas de le dire. Hein.
Alors si elles ne prennent pas, si votre avocate ne prend pas votre parti, alors là faut prendre un homme qui prend votre parti, tant pis.
Non, c'est pas ça. Elle défend pas d'une façon assez violente mon point de vue, quoi. C'est ça, devant les juges et devant l'autre avocat, surtout qui lui est un homme. Donc là, j'ai affaire à quelque chose qui me dépasse complètement. C'est la première fois.
Peut-être qu'il faudrait quand même aller voir un bon thérapeute pour voir si justement vous n'êtes pas aveuglé et pas lucide dans tout ça. Parce que si tous les deux trois avocates que vous avez pris n'ont pas suivi votre analyse, c'est peut-être que votre analyse est faussée parce que sur le plan émotionnel, et on peut le comprendre, vous voyez plus les choses avec justesse.
Je l'ai fait aussi, Brigitte. Ça, je l'ai fait aussi. J'ai pris le temps de le faire aussi. Et j'en suis toujours au même point. Enfin, c'est pas grave, c'est mon affaire, ça. Mais enfin, je disais que c'était pas facile. Alors, ce que je voulais dire au début de mon sujet, quand j'ai appelé sur votre collaborateur, là, c'est qu'effectivement, au niveau de gens qui ont une certaine culture et de certains savoirs en matière de psychologie et de médecine, etc., c'est pas plus facile de gérer l'équilibre des priorités quant à la décision sur la vie du couple, la vie de la famille, etc. C'est pas plus facile qu'avec des gens, qui n'ont pas cette culture-là. C'est même pire, j'ai l'impression. Je crois que ça gâche tout.
Je crois, enfin, si je peux me permettre, je crois que dès le début, vous auriez jamais dû même vous lancer dans des conversations ou des discussions psychologiques. Vous auriez dû dire, moi, la psychologie, j'y connais rien, la psychiatrie, j'y connais rien. Moi je suis médecin, je m'occupe du corps, et toi tu t'occupes de l'esprit, et chacun s'occupe de sa partie, et moi je ne comprends rien de ce que tu racontes, et moi je ne te fais pas de cours sur la rectocolite hémorragique, et toi ne me fais pas de cours sur l'investissement libidinal, voilà.
Oui, mais en même temps, il faut quand même rappeler aussi, Jean-Michel Gourlian, que tout psy qu'on soit, quand on est dans une relation affective, on peut aussi laisser l'affect l'emporter sur nos connaissances de psy. Hein. C'est toujours.
Je crois qu'il faut laisser la bibliothèque en dehors de la chambre à coucher.
Mais oui, ce sera mieux. Ce sera mieux. Merci beaucoup, Pierre, et bon courage hein, en tout cas. Fabrice, vous avez testé pour nous ce masturbateur flashlight. Alors c'est pourquoi flashlight? C'est tout simplement parce que ça ressemble à une Porsche, une torche, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce lapsus, je suis désolée. Bonjour Fabrice.
Bonjour, oui, mais on peut dire que c'est la Porsche des masturbateurs.
Merci de venir à mon secours, Fabrice.
Voilà. Donc en fait, je suis assez content de ce test. Hein. Donc le sujet dont on va parler, effectivement, beaucoup plus léger que celui d'avec votre interlocuteur précédent. Hein. Oui. Donc le masturbateur est efficace. Hein. Je dirais que les sensations ressenties sont vraiment agréables. Donc par sa forme, effectivement, c'est une torche, hein, c'est ça. Donc c'est classique. Les petits plus, il y en a deux, je dirais. C'est qu'on verse de l'eau chaude à l'intérieur, puis on la retire. Ça a pour effet de chauffer le silicone. Et je dois dire que la sensation ressentie autour du sexe est super sympa.
Donc on met de l'eau à 37 degrés.
On met de l'eau chaude, pas brûlante, ce qui fait qu'on la retire dans la foulée. Mais en fait, le silicone est chaud. On a vraiment l'impression d'être dans quelque chose de chaud. Donc c'est vraiment super sympa. Et il y a un autre petit plus aussi, et ça j'étais dubitatif au début, mais ça marche vraiment bien, c'est qu'à l'extrémité en fait du jouet, on peut serrer et desserrer, ce qui change l'effet de succion, en fait.
D'accord, oui.
Et ça fait comme si...
On était plus ou moins aspirés, oui, bien sûr.
Ouais, donc c'est vraiment sympa.
Mais il me semble, de tous les masturbateurs pour hommes, il me semble que le flashlight, c'est vraiment le meilleur, hein, d'après ce que j'ai toujours entendu. C'est vraiment celui qui rapproche le plus une sensation réelle d'être en train de faire l'amour à une femme, quoi.
Ouais, je confirme, j'en ai testé d'autres, et celui-là est vraiment sympa. Et puis en plus, vraiment... Il est démontable facilement, donc le lavage est super facile. Je dirais que le petit inconvénient, je vais quand même dire un petit inconvénient, pourquoi après mettre une note exceptionnelle, je dirais qu'il est par sa taille imposant. Donc en fait, il est dans la main, il prend de la place. Hein. Voilà, par rapport à un autre qui est peut-être plus petit, celui-là est à une taille imposante. Mais sinon, non, c'est vraiment...
Il faut une force du poignet, quoi.
Oui, non, c'est vraiment sympa. Je recommande ce sextoy. Hein. Et je suis pas habitué à mettre des super notes.
Non.
Et là, je dois dire que là, je vais mettre 9 sur 10. Parce que ça aurait pu être 10 sur 10 s'il n'y avait pas eu ce petit inconvénient de la taille. Mais vraiment, comme vous dites, hein, c'est vraiment, la sensation est vraiment, je dirais pas tout à fait comme une femme, hein, mais vraiment, la sensation est super agréable. Donc, comme vous dites, la Porsche des masturbateurs.
Merci Fabrice, en tout cas, de l'avoir testé pour nous, ce Flashlight Girls Really Red. Si vous voulez vous le procurer, vous pouvez aller sur la boutique de l'émission. Vous allez sur rmc.fr et il peut être à vous. Merci Fabrice. Merci beaucoup Jean-Michel Gourlian.
Merci à vous, c'est Brigitte. Ça fait un plaisir comme toujours.
Et je pense qu'on vous retrouvera après l'été puisque vous allez nous quitter. Mais on sera toujours un plaisir de vous retrouver. Et je rappelle Merci. Le titre de votre dernier livre, Notre troisième cerveau aux éditions Albin Michel, dans lequel vous expliquez très clairement ce que sont les neurones miroirs. Systématiquement, on va copier les gestes, on va copier ceux qui sont. Et c'est comme ça qu'on se construit dans l'imitation ou la rivalité, ça dépend. On se retrouve dans un instant avec le Love Conseil du jour, des surprises pour mes simples mais efficaces. Et puis Laurent Carilla qui vous donnera quelques conseils pour mieux vous faire plaisir. À tout de suite.
RMC, Brigitte Lahaie, Love Conseil.
Un petit love conseil avec plein de petites surprises que vous pourriez faire. On parle souvent des surprises qui sont nécessaires et c'est pas forcément utile d'en faire beaucoup pour surprendre votre partenaire. Et je vous propose donc une petite liste non exhaustive de choses que vous pourriez faire. Voilà. Par exemple, vous pourriez très bien lui ouvrir la porte un soir complètement nu ou dans une tenue très érotique. Vous pouvez aussi vous photographier dans cette tenue particulièrement sexy et puis la glisser dans son agenda ou lui envoyer par texto, par exemple, pour qu'il ou elle la découvre sur son lieu de travail. Ensuite, on peut toujours envoyer un SMS très enflammé mais sans le signer. Et puis, une petite demi-heure après, vous signez, voilà. Et ça, c'est toujours assez drôle parce que quand quelqu'un reçoit un SMS très enflammé, pas signé, on se demande toujours, on a un petit temps de réflexion, on se dit mais qui c'est, voilà, et puis après vous envoyez la signer évidemment. Vous laissez traîner aussi un objet qui fait penser au sexe dans un endroit tout à fait inhabituel, et pourquoi pas avec une flèche pour faire une sorte de rébus. Alors, il y a aussi la manière d'écrire un mot doux sur la vitre de sa voiture, sur la glace de la salle de bain il ou elle se prépare avant vous. Enfin, vous voyez, c'est des toutes petites choses, mais qui rappellent tout le temps que on est en couple, qu'on s'aime, qu'on pense à soi, qu'on se à l'autre, qu'on désire. Enfin, voilà. Laurent Carilla est avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour Brigitte.
Vous venez souvent pour nous parler des addictions. Vous êtes psychiatre spécialiste des addictions. Et puis aujourd'hui, vous avez eu envie d'écrire un petit guide, petit d'ailleurs. Ouais. Hein. Votre plaisir vous appartient. C'est aux éditions Flammarion. Alors ça m'a beaucoup fait sourire parce que en quatrième de couverture, il est écrit le plaisir est à portée de main. Ouais. Ça m'a fait vraiment fait rire parce que
c'est inconscient.
C'est inconscient. Ouais. C'est vous qui avez écrit la quatrième de couverture. Ouais. Ouais. Le plaisir est à portée de main. Bon.
C'est quelque chose de très imagé en fait, mais c'est vrai que la main joue un rôle à la fois physique et à la fois aussi, on va dire, dans l'imaginaire, on peut penser à plein de choses. Et le plaisir, on a tous du plaisir, après il faut savoir comment le récupérer, se le réapproprier et puis le redistribuer.
C'est vrai que c'est pas si simple. On a l'impression, enfin moi j'ai l'impression que c'est simple de se faire plaisir, de se donner des moments de plaisir, mais au fond... Pour beaucoup de gens, encore aujourd'hui, et pourtant notre société est quand même plus ouverte au plaisir
bien
qu'elle
sûr.
Ne l'était il y a 50
bien
ans.
Sûr,
pourquoi c'est si compliqué?
C'est compliqué parce qu'il n'y a pas que justement la disponibilité, on va dire, des produits plaisants, produits entre guillemets plaisants comme ça, si facilement. Je veux dire, il y a aussi ce qu'on a appris de notre éducation, de notre environnement, de comment on fonctionne dans la vie, et il y a des gens qui se mettent facilement des barrières sur des choses plaisantes et qui... peuvent aussi éviter le désir de temps en temps par, on va dire, défense un peu dépressive, anxieuse. On voit ça. Hein. Et ce livre, vraiment, j'ai eu envie de l'écrire. J'avais pas envie d'écrire un truc sur les maladies, ce coup-ci, en fait. Voilà. Donc, et puis, vous avez été une source d'inspiration énorme pour moi, Brigitte.
Oh, merci, Laurent Carilla. Je suis ravie de savoir que je vous ai inspiré ce livre. Votre plaisir vous appartient. Alors, il se passe quoi dans notre cerveau quand on se fait plaisir?
Quand on se fait plaisir, il y a... exactement les mêmes zones qui s'allument que quand on va être plus simple, je veux dire il y a de la récompense de base. La récompense de base, c'est on peut se faire plaisir en mangeant, on peut se faire plaisir en buvant quand on a soif, et on peut se faire plaisir avec du sexe. Et en fait, c'est le même système qui s'allume dans la tête, c'est un système archaïque d'abord qui va s'allumer, qui envoie des messages avec des neurotransmetteurs, de la dopamine, etc., des trucs de plaisir, qui envoie des messages en avant de notre cerveau, et hop, tout s'allume, tout s'éclate. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce circuit-là, les drogues et les addictions aux drogues et aux comportements empruntent le même circuit. Ça veut dire que même dans la notion de consommation addictive, il y a au départ un truc qui emprunte le même chemin que le plaisir. Et on est programmé pour ce plaisir, en fait.
Bien sûr. Mais est-ce que c'est naturel d'avoir envie de se faire plaisir, ou est-ce que c'est une éducation ?
C'est naturel d'avoir envie de se faire plaisir. On a un système qui est un système basique qui s'appelle le système de récompense. C'est très très basique, très animal. Et après, il y a des facteurs, on est des êtres humains, donc on a des facteurs de développement personnel, on a des facteurs comportementaux, notre tempérament, et notre environnement et notre génétique aussi.
Donc il faut bien comprendre que si on a du mal à se faire plaisir, c'est qu'il y a eu des inhibitions, des peurs,
exactement,
des blocages.
Exactement, ouais, il y a des petits trucs dans l'histoire de chacun qui fait que quand on a du mal à prendre plein de plaisir ou à attiser son désir ou son envie, c'est pas forcément que sexuel. Hein.
Oui, j'entends bien.
Et, il y a des choses qui dysfonctionnent en nous, des petits nœuds. Alors si ces petits nœuds sont, on va dire, pas très importants, on peut vivre avec, on s'adapte, parce que aussi on a cette faculté-là, là, grâce à notre cerveau, qui s'adapte à tout. Et quand ça devient un peu trop envahissant, on va dire, eh ben on peut développer des maladies, en fait. On peut être un peu déprimé, on peut être très anxieux, avoir, enfin, même des troubles du sommeil importants peuvent impacter sur notre plaisir.
Alors la question évidemment actuelle qu'on doit poser, Laurent Carilla, c'est est-ce que les nouveaux médias favorisent la possibilité de se faire plaisir ou au contraire nous inhibent ?
Bah, on est dans une société hyper speed. Donc hyper speed, ça veut dire que tout est à disposition de gratification en fait, immédiate. Donc si on prend l'exemple du porno en streaming, c'est vraiment un outil qui peut faire plaisir rapidement à tout le monde, hein, aux hommes et aux femmes, puisqu'on le voit maintenant, hein, les femmes utilisent aussi autant le porno, enfin en proportion un peu moins, mais on est dans des choses assez équivalentes. Oui, ça peut favoriser ce plaisir immédiat, mais en même temps, si on a, on va dire, des casseroles d'inhibition en nous, le problème, c'est qu'on règle pas ces casseroles. On retarde le problème, en fait. On délaye le problème, en fait.
C'est ça. Donc, il faut d'abord peut-être faire une toute petite introspection.
Oui.
Est-ce qu'on est apte à se faire plaisir ?
Exactement.
Et c'est ça aussi le but de votre livre. Hein.
Ouais, c'est ça.
C'est de nous aider à déjà comprendre si on est apte à se faire plaisir. Bon, bah, tout va bien. On offre le livre à une copine.
C'est ça. Mais en même temps, livre, il y a aussi le plaisir. J'ai fait un espèce d'état des lieux un peu sympa, pas trop scientifique.
C'est très simple à lire.
Sur la sexualité et un état des lieux un peu, ouais, sur, voilà, bah, c'est quoi. On a tous un disque, moi j'appelle ça le disque dur du désir. On a tous ça avec des codes de plaisir, d'envie et de désir. Et chacun formate à sa façon les choses, quoi. Et chacun remet à jour ses informations.
Donc si on a pas de problème, tout va bien.
Oui.
Si on a du mal à se faire plaisir, moi j'entends beaucoup de gens qui vont pas oser se faire plaisir, par exemple manger quelque chose d'agréable, on le fait que si on est avec son partenaire, tout seul, on grignote un truc, enfin par exemple.
Exactement,
hein,
mais
alors quel conseil vous pouvez donner, moi, Laurent Carilla ?
Les conseils, enfin des conseils simples, c'est que Il faut essayer de faire tomber ces inhibitions. Si elles sont pas trop importantes, si elles sont pas trop handicapantes, si elles sont pas trop envahissantes dans la vie, il faut savoir se faire plaisir, des plaisirs basiques. C'est-à-dire que des plaisirs basiques, c'est des petits plaisirs. C'est-à-dire que je sors avec des amis, je vais boire un verre sans abus, je vais manger un truc qui me fait plaisir et pas me dire oh là là ça va me faire grossir, etc. Je vais avoir un truc sexuel, bah je peux me faire plaisir tout seul en allant voir un truc en streaming sans abuser, vous voyez, tous ces trucs là et même on voit bien avec le marché des sextoys, la sexualité virtuelle, on voit bien qu'il y a plein de nouveaux produits qui arrivent pour justement procurer avec des espèces de nouveaux plaisirs aux gens.
Mais je pense même à s'acheter quelque chose qu'on a envie de s'acheter, un petit truc,
bien
simplement
sûr,
pour se faire plaisir, quoi.
Bien
pas,
sûr.
Pas obligatoirement attendre que ce soit un
exactement.
Événement.
Exactement.
C'est ça. Hein.
Et vu la société où on vit actuellement, où quand même, c'est quand même assez morose, hein, quand même. Je veux dire, les petits moments où on peut se faire du bien, vaut mieux se faire du bien.
Absolument. Et pas forcément être obligé d'être avec quelqu'un pour se faire du bien.
Exactement.
Donc tous les matins, qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir.
Mais même en thérapie, moi, on le fait avec certains patients. Je veux dire, certains patients addicts qui ont dépassé le stade de l'addiction, ils sont dans l'abstinence. Vraiment, la substance n'est plus un problème. On travaille sur ce registre-là. C'est un nouveau répertoire social, c'est-à-dire se refaire plaisir sur plein d'axes. Il y a bouffer, boire, l'amour, s'acheter des trucs. Enfin voilà, c'est des trucs de la vie, mais qui font vraiment plaisir.
Se regarder quelque chose qu'on a envie de
Exactement.
Se regarder, lire ce qu'on a envie de lire.
Exactement.
Enfin voilà.
Ou écouter, moi par exemple, écouter du métal, ça me fait plaisir.
Mais ça, je ne suis pas surprise, Laurent Carilla. Notre fil d'Ariane, vous allez nous parler d'addiction tout à fait insolite tout de suite là.
Eh bien oui, parce que quand on parle addiction, on en connaît tous, à l'alcool, à la cigarette, enfin voilà, ça c'est celle que les gens connaissent. En revanche, il y a des addictions un peu plus surprenantes. Le fait de se faire plaisir, on parle de plaisir là, en mangeant, oui, mais en mangeant de tout et n'importe quoi. Sur le net, quand vous tapez addiction insolite, vous tombez sur manger des clous, des éponges, du déodorant, du maquillage, de la lessive, de la mousse,
manger
de
manger des clous, on ne va pas en manger beaucoup.
Pneus,
hein,
c'est à chaque fois des cas vraiment fous, extrêmes et éminemment dangereux, il faut le rappeler.
Manger des clous, oui, ça.
Non, mais vous trompez. Enfin, franchement,
faut être marteau pour manger des clous.
Oui. Et puis, vous en avez d'autres qui sont un petit peu plus répandus, mais quand même bien étranges. Ce sont les trichotillomanes, ceux qui s'arrachent les poils des cheveux, les sourcils, les poils de barbe, voire même les poils pubiens. Et ils deviennent trochophages lorsque ils se mettent à les manger. Là encore, ça concerne.
Vous êtes savante aujourd'hui.
Mais oui, je me suis beaucoup renseignée pour bien travailler et bien vous informer aujourd'hui, Brigitte.
Laurent,
sur ces addictions
insolites. Vous mettez à manger vos cheveux, vous n'avez pas fini.
Non, je suis plus.
Mais alors, attendez, vous plaisantez, mais à force de manger comme ça ses cheveux, eh bien certains ont atteint une calvitie partielle,
c'est dangereux,
voire totale, et ils peuvent aussi, il y a des cas,
cas d'occlusion.
Exactement, d'occlusion, ça fait des boules de poils dans l'estomac qui bloquent tout, et il faut opérer évidemment.
En fait, là, excusez-moi, mais on est dans des cas de
c'est une pathologie psychiatrique.
On est d'accord, ouais, c'est mortifère. Là, on n'est plus du tout dans une addiction, on est dans quelque chose d'autodestructeur.
Ah oui, complètement.
Alors, d'autres addictions, là aussi, qui font assez froid dans le dos, c'est à la chirurgie esthétique. Vous savez, il y en a qui en font de plus en plus chaque année, etc. Eh bien, c'est le cas, par exemple, de Sheila, qui a dépensé déjà plus de 220 000 euros.
Sheila nationale.
Non, pas la nôtre, une américaine qui adore ses seins au point de dire que ce sont ses enfants. Et alors, depuis qu'elle a 19 ans, elle a décidé de faire gonfler ses seins un peu plus chaque année, gagner un bonnet chaque année qui passe. Elle a commencé à 19 ans et 13 ans plus tard et 22 opérations après, elle se retrouve non pas avec un bonnet B, mais un bonnet K. Elle ne compte pas s'en arrêter là.
C'est un cas, je confirme.
C'est un cas psychiatrique,
photo,
là,
ouais.
Encore. Il y en a sur rmc.fr. Là, je ne les ai pas tout de suite en studio. Bon, quand on voit la poitrine, on a déjà vu des femmes avec des poitrines aussi opulentes.
Moi, j'avais rencontré
opulentes.
Lolo Ferrari. Ouais. C'était assez impressionnant. Oui,
ouais, évidemment.
C'était même assez inquiétant, mais elle était, en dehors de ça, elle était adorable. Mais on sentait bien que c'était un cas aussi.
Bah là, son cas, c'est dans chaque sein, un litre 14 de saline mis à l'intérieur.
Mais encore une fois, vous voyez, c'est une pauvre fille. Et moi, ce qui m'agace toujours, c'est qu'il y a quand même des chirurgiens qui ont été jusque-là. Et c'est eux qui sont coupables, finalement.
Ça reste du business, hein, dans certaines cliniques, surtout aux États-Unis.
D'accord, mais enfin, là, il y a personne en danger, quoi. Donc, on pourrait presque.
Je pense qu'ils mesurent. De toute façon, tout est verrouillé. Hein, je veux dire, ils font signer des décharges sur les risques, ils informent sur les risques des opérations, les risques liés aux complications. Ils sont couverts.
Tout à fait. Sur un plan éthique, c'est quand même eux qui sont.
Après, c'est un choix aussi de Sheila et d'autres aussi. On voit aussi sur certains sites des poitrines qui dépassent l'entendement. Quoi.
Enfin, il y a une addiction vraiment insolite. Ça se passe au Brésil. Luis Squarisi, qui lui adore les enterrements. Et alors, il assiste à toutes les funérailles de son village. Il est devenu une star locale. Il ne manque pas un seul défunt.
Tant qu'il ne va pas jusqu'à tuer pour
assister à un enterrement.
Toujours plus.
Non, ce n'est pas du tout un criminel, mais il a son addiction qui lui est propre, c'est certain.
C'est pas bien méchant. Au moins, il y a du monde à l'enterrement.
Mais il ne souffre pas.
Mais il se fait plaisir. Un véritable plaisir. Il commence chacune de ses journées par un coup de fil aux hôpitaux du coin pour savoir le programme de sa journée. Il ne veut passer à côté d'aucun un cadavre, précise-t-il, et il a même arrêté de travailler juste pour pouvoir assouvir cette addiction.
Bon,
j'ai jamais entendu. J'ai envie de dire, c'est énorme. Quoi. Il y a des gens.
C'est au Brésil.
Oui. Bon.
J'aimerais bien parler avec lui en consultation.
Oui, mais c'est vrai que, enfin, je sais pas si ce soit vraiment très passionnant ce qu'il aura à nous raconter.
Mais pour savoir qu'est-ce qui lui passe par la tête, quoi.
Oui.
Et qu'est-ce qui passe par la tête de cette femme qui mange des couches sales? Là aussi, j'ai trouvé cette addiction.
C'est psychiatrique, hein, ça, je crois.
C'est vraiment, vraiment horrifiant de voir toutes ces addictions.
Ouais, vous avez dû vous faire du mal, hein, en regardant tout ça sur
C'est pour ça que je ne fais que les citer rapidement et je ne développe pas.
Mais c'est là où on voit la différence entre l'addiction avec récompense récompense, parce que ce soit le film pornographique, le jeu, là on a quand même une...
Au départ, c'est du plaisir.
Voilà, et tandis que là, manger des clous, je n'arrive pas à trouver où est le plaisir du premier clou.
Surtout, c'est très très dangereux.
Oui, ouais, là franchement, le premier plaisir du petit clou,
je sais pas.
On va chercher et on se retrouve dans un instant si on a la réponse ou vous la donne. Ouais.
RMC, 14h-16h, La Haye, l'amour et vous. RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye.
Nous sommes avec Laurent Carilla, vous êtes psychiatre et vous avez envie de sortir, j'allais dire, ce guide, oui, parce que c'est un guide pratique, assez grand public en plus. Votre plaisir vous appartient, c'est aux éditions Flammarion, et donc c'est des conseils pour être plus dans le plaisir, j'allais dire aussi dans le désir. Alors il y a aussi quand même une bonne partie, j'allais dire, d'éducation sexuelle, oui. Hein, aussi dans ce livre.
Ouais, c'était sur mon titre docteur, ça. Il fallait que j'en parle un peu aussi.
Mais oui, hein, quoi de neuf, docteur sexe. Hein,
ouais,
il y a notamment un chapitre.
J'ai eu de la chance de parler avec plein de femmes, en fait, qui n'avaient pas de pathologie, a priori. Et ça m'a permis de faire d'autres choses que de parler uniquement de maladies addictives, de maladies psychiatriques. Voilà, je l'ai fait dans l'esprit interview, et puis je retranscris un peu, et puis j'ai pu aussi discuter avec des Américaines aux États-Unis sur des sites. Enfin, c'était fabuleux comme c'était un travail complètement différent pour moi. Je me suis éclaté à faire votre plaisir.
Et vous dites bien, hein, que la sexualité des femmes, elle évolue à grande vitesse, hein, et tant mieux d'ailleurs, parce que faut pas que les hommes en aient peur. Ils seront les premiers à en profiter.
Exactement. Faut pas qu'ils en aient peur. Il y a des petits trucs aussi pour les hommes et les femmes, avec le point P, avec plein de choses qu'on connaît un peu, mais j'ai eu envie de mettre un update sur vraiment des trucs un peu mis à jour des données de la sexualité. Même je me suis lâché aussi sur le porno, parce que je trouve que c'est un truc, c'est assez fabuleux et à la fois, enfin, c'est un milieu mystérieux et fabuleux. Enfin bon, je me suis fait plaisir en tout cas à l'écrire. Voilà.
Oui, la pornographie, on peut d'ailleurs en parler, parce qu'elle est de plus en plus décriée aujourd'hui, et je pense que c'est... Alors bien sûr, il y a des abus, il y a des choses difficiles, etc. Mais il faut faire attention aussi de ne pas tout jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit.
Ça fait partie du paysage sexuel. Et moi, je crois que vraiment le message de prévention en tant que médecin, c'est... Les très très jeunes, faut qu'ils fassent gaffe à Internet et le streaming, le porno en streaming, parce que ça leur donne une vision faussée des choses, voilà. Mais sinon, je veux dire, on peut en couple voir un extrait en streaming et s'éclater, quoi. Donc,
La vraie difficulté qu'on n'arrive pas à gérer aujourd'hui dans notre société, c'est les tout jeunes qui vont tomber sur des images pornographiques,
C'est facile, ils se connaissent les adresses. Hein.
C'est vrai que pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé la solution. Moi, j'ai tendance à dire, elle est pas simple à trouver. Peut-être que la solution, c'est un peu parler de sexualité un peu mieux dans les médias, dans les écoles.
Et partout. Aller dans les écoles, faire un peu de prévention, un peu d'éducation, de sensibilisation. C'est vrai que moi, à mon époque, c'était la cassette vidéo. Enfin, je suis pas très vieux, mais
bien sûr.
Mais moi, c'était la cassette vidéo. Donc, fallait aller dans un vidéoclub, ou bien il y avait un copain qui avait une cassette vidéo et qui nous montrait des trucs, quoi.
Moi, je peux vous assurer, puisque j'étais sur ces cassettes vidéo, peux vous assurer que chaque fois que j'ai rencontré des enfants d'amis qui avaient entre 13 et 15 ans, ils m'avaient tous déjà vu sur cette vidéo. Parce que ça circulait à l'école, autant que circulent aujourd'hui les visions sur Internet.
Moi, le premier film que j'ai vu, c'était une cassette vidéo, c'est un copain.
Vous aviez quel âge?
J'étais en quatrième.
Oui, donc vous étiez très jeune.
Ouais, ouais.
Bien plus jeune que...
Mais j'ai toujours été très mature.
C'est évident.
Mais c'est un âge de découverte en même temps. On peut pas dire aux jeunes... pas de clope, vous pouvez pas boire un verre d'alcool, pas voir un film porno, c'est impossible.
Mais mon grand frère allait dans la bibliothèque de mon père voir les curiosas voir des dessins de femmes nues, et puis
fait partie du développement, je veux dire, en même temps.
Sauf que la différence fondamentale aujourd'hui, c'est que ce qu'on peut voir dans certains films porno aujourd'hui, c'est plus de la sexualité normale, par là.
La sexualité standard,
C'est ça qui est un peu difficile, et c'est en ça qui est peut-être...
C'est
peut-être utile de rappeler que la sexualité, c'est d'abord se faire plaisir. Encore une fois, on revient à ça. Entre deux êtres consentants.
Exactement, c'est exactement ça.
Alors, on va peut-être revenir quand même aussi sur l'addiction sexuelle, parce qu'il y a aussi un chapitre dans ce livre, Votre plaisir vous appartient. C'est de plus en plus fréquent, ça aussi.
Chez les femmes, On était.
Et à quoi ça tient?
Déjà, moi, je suis contre cette idée de différence homme-femme sur ces éléments-là. Je veux dire, les femmes peuvent avoir aussi des addictions sexuelles, Donc elles souffrent, elles viennent pour des problèmes. Alors c'est vrai qu'on est pas toujours dans le... D'abord, elles sont un peu moins nombreuses, mais je pense que c'est un peu biaisé, en fait, parce que on se retrouve dans des situations comme avec l'alcoolisme il y a 70 ans, vous voyez, où les femmes qui picolaient gravement se cachaient, elles avaient honte, elles étaient coupables, elles se faisaient pas soigner, elles avaient des maladies. Là, on est pareil. Là, et là, tout doucement, les filles viennent, et les filles de tout âge, hein, viennent en consultation tout doucement, parler de leur sexualité qui est excessive et addictive. Et donc, elles vont aussi voir en non-stop du porno sur le web ou chasser des mecs ou des meufs sur des femmes
sur,
pardon,
les sites,
sur les sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux.
Et c'est... Alors, peut-être que là, entre regarder, enfin, être addict sur en visionnant des films pornographiques ou addict à des rencontres sur des sites, c'est pas tout à fait la même chose, parce que beaucoup de femmes, moi enfin c'est un petit peu ce que j'ai remarqué, beaucoup de femmes qui vont très jeunes avoir beaucoup de partenaires pour prouver qu'elles sont libres, se font beaucoup de mal finalement.
Ouais, bien sûr, mais ouais, c'est comment on utilise l'outil, en fait. Mais c'est vrai que c'est vrai, on peut se dire mais ça fait pas tellement mal d'aller voir du porno sur le web, mais quand c'est utilisé de manière compulsive, c'est-à-dire dans non-stop avec du parasitage du travail, des relations sociales, là on est dans, elles viennent pour ça en fait, elles disent là je crois que j'ai vraiment un problème, quoi. Et c'est pareil pour les rencontres sur les réseaux sociaux, etc., où elles draguent en non-stop, elles font, même j'ai soigné des femmes qui draguer en non-stop sur des réseaux sociaux classiques, qui faisait des rencontres en webcam masquée, et elle passait des heures. J'avais une femme qui avait 4-5 ordinateurs autour d'elle, en webcam. Enfin, c'est devenu une entreprise, quoi.
Oui, c'est ça. Masquée, certes, mais quand même.
Ouais, mais elle souffrait, hein.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le temps qu'on passe.
Ouais, la perte de temps, ouais.
Déborde,
ouais,
et on finit par plus avoir de vie.
Il n'y a plus de vie.
L'addiction prend toute la
exactement,
place.
Exactement.
C'est toute la difficulté, justement, de cette récompense plaisir.
Ouais, c'est ça.
C'est que il en faut encore plus, et.
C'est ça. C'est quand vous souffrez et qu'il n'y a plus de plaisir, vous êtes dans l'addiction, en fait.
Alors, comment on fait? Faudrait s'arrêter en amont, en quelque sorte, l'idéal.
Bah, ça peut être difficile, parce que comme au départ, on a des shoots de plaisir, on se dit, je vais encore en prendre encore plus, donc on va encore plus loin, plus loin, plus loin. À un moment, on est débordé, on n'arrive plus à rien contrôler. Il y a aussi cette notion de perte de contrôle, donc il y a un dérèglement dans le cerveau. Et en fait, en thérapie, on re-règle un peu le cerveau, en fait, sur le contrôle, la motivation à changer, se récompenser et prendre du plaisir différemment.
Alors le sport, ça peut aussi...
Le sport, ça aide, mais ça peut être une addiction aussi.
Oui, oui, c'est ce que j'allais dire.
Ouais.
Hein, ça peut détruire aussi un petit peu les neurones, le sport. On en a une preuve, là. Vincent Masquet.
Bonjour, vous allez bien?
Ça va, et vous?
Ça va impeccable. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, l'addiction au sport. Oui, c'est l'endorphine, c'est ça qu'on sécrète quand on fait du sport.
Ouais.
Ça devient une accoutumance. Après, on en a besoin pour justement, pour rester en vie, mais avoir son extase, avoir ça.
Exactement. Ouais. Il y a un autre système qui intervient, c'est le même système que le cannabis sur le cerveau, en fait. C'est un système cannabinoïde, et c'est un truc hallucinant, en fait, parce que ça donne les mêmes effets dans le cerveau que si on fumait des joints, quand on fait beaucoup, beaucoup de sport.
Ouais, je vais faire un footing en rentrant. Brigitte, on va parler de l'euro. On va bien sûr parler de l'euro 2016. A-t-on mis trop de pression à Pogba? Excusez-moi, j'avais pas mes lunettes, oui, voilà. Et puis le rugby, qui êtes-vous, monsieur Trenduc? On va parler un peu de tout, c'est un peu, vous le savez, le Super Moscato Show, l'émission Omnisport d'RMC. Brigitte, passez une bonne soirée, Brigitte.
Et en tout cas, si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas, ça s'appelle Votre plaisir vous appartient, c'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Laurent Carilla.
Merci
à vous. Demain, Michel Odoul sera avec nous, et on va parler du corps et de l'esprit, qui commande l'autre, avec Michel Odoul demain. Bonne journée.
Sur RMC, ne ratez rien de l'AL Amourez-vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.